Comment organiser un salon du livre durant plusieurs jours par temps de Covid et de confinement? Eh bien, c'est l'équation qu'a dû résoudre le salon du livre et de la jeunesse et de la presse jeunesse de Montreuil, près de Paris. On en parle ce matin donc avec nos deux invités, Sylvie Vassallo, directrice de ce 36e salon du livre et de la presse jeunesse, et à vos côtés, mais à distance, Marie Desplechin. Faut-il rappeler que vous êtes journaliste, écrivaine, et votre dernier livre, La Capucine, est paru aux éditions L'École des Loisirs. Sylvie Vassallo, organisez donc ce salon du livre sans public. Vous avez donc trouvé la parade. Ça se passe par le biais d'une chaîne de télévision baptisée Via Grand Paris. La chaîne est disponible sur le canal 34 de la TNT. Comment est née d'ailleurs cette idée télévisuelle, ce repli télévisuel?
Alors, il n'y a pas qu'un repli télévisuel. En fait, on est parti de ce que fait le salon d'habitude, c'est-à-dire la rencontre entre les autrices et les auteurs de littérature de jeunesse et les enfants. Et on a trouvé tous les moyens d'organiser cette rencontre. La télé est un de ces moyens, puisque ces 200 auteurs sont invités à la télévision. Via Grand Paris, c'est une chaîne qui existe. Et en partenariat avec elle, nous avons monté une grille de programmes 100% dédiée à la littérature de jeunesse, donc des rencontres, des cours de dessin. Mais il y a également une exposition à Montreuil en plein air. Il y a également des livres qui sont dédicacés par les auteurs et qui arrivent dans les classes de Seine-Saint-Denis,
par visioconférence. Parce que le contact direct, j'allais dire physique, charnel avec le public pour des écrivains et des lecteurs, vous recevez 170 000, je crois, visiteurs chaque année. Ça reste essentiel, ce contact direct?
Oui, c'est le moment où ça se passe en fait. C'est le moment où les mots, les images des autrices, des auteurs arrivent aux enfants. Donc on a essayé de le reconstituer. Alors on en parlait avec Marie ce matin. Finalement, on a fait beaucoup de choses qui sont très complémentaires de ce qu'on fait d'habitude. Ce qui manque, c'est la fête. Mais malgré tout, on a fait retentir la littérature de jeunesse dans cette période.
Et ça fait 36 ans que ça dure. Il faut quand même le dire, c'est une petite merveille ce salon.
Oui, c'est vrai, c'est une merveille.
C'est un miracle annuel.
Oui, c'est le moment où tout le monde s'ouvre aux enfants, tout le monde s'ouvre à leurs rêves, à leur imaginaire, à leurs inquiétudes, aussi à leurs angoisses. En ce moment, elles sont nombreuses et c'est aussi pour ça qu'on tenait à faire ce salon. C'est le moment où la création littéraire est en contact direct avec son public et c'est évidemment absolument essentiel. Il se passe des choses là qui vont durer toute une vie.
Marie Desplechin, vous avez rédigé plus d'une centaine de livres, je crois, en partie pour la jeunesse.
Bah oui, tant que ça, on a compté, c'est comme ça.
Qu'est-ce qui vous plaît tellement, Marie Desplechin? Qu'est-ce qui vous plaît encore dans la rédaction d'un roman essentiellement adressé à quoi? Des moins de 16 ans, des moins de 20 ans? C'est quoi la jeunesse d'ailleurs?
C'est une bonne question. Ah ben, disons des plus de 7 ans. Et après, c'est comme on veut.
Oui.
Et qu'est-ce qui me plaît? Ben, en fait, je sais pas. J'ai l'impression que c'est très compliqué. Et chaque chose que je pourrais vous répondre, elle serait très partielle.
Allons-y.
C'est naturel, en fait. Je me sens chez moi. Je sais pas comment dire. Ça paraît absurde à dire. Mais si j'écris pour quelqu'un de 14 ans, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans et l'âge que j'ai, qui est beaucoup plus vénérable. Mais ça me réconcilie. Ça me contente. J'aime bien. J'aime bien les gens plus jeunes.
Ouais. Est-ce que, quand vous dites j'ai 14 ans, quand j'écris pour quelqu'un de 14 ans, est-ce qu'à 14 ans, vous étiez si bien que ça dans vos pompes?
Ah ouais. Mmh. Ah oui, moi, c'est en devenant adulte que les choses se sont gâchées. Ah non, moi, c'est l'âge adulte que j'ai haï. Non, je garde un souvenir globalement très, je sais pas si c'est heureux le mot, mais très très bon de mon enfance. Et l'adolescence a été une période rêvée. Moi, j'ai vécu 3-4 ans merveilleux.
Avec une mère formidable. C'était à Roubaix.
Mais mes parents étaient. Il y avait tellement de trucs bien. C'était tellement marrant d'habiter cet endroit-là à cette époque-là.
Dans la fratrie.
Dans cette fratrie, avec ses cousins, avec ses amis, dans une famille extrêmement ouverte, avec une maison dont les portes, justement, étaient ouvertes tout le temps. À la fois sur le monde extérieur et extrêmement enraciné là où on vivait. Non, c'était vraiment chouette. Ouais. Après, c'est dur.
Après, ça, c'est compliqué. À l'âge de quoi? 20, 21? Ouais, c'est vrai.
Ah, bah non, mais moi, j'ai passé mon bac, je savais que c'était, comment on dit, la fin de ma vie, comme disent les jeunes aujourd'hui. J'ai passé mon bac, j'allais quitter l'endroit où j'avais toujours vécu. J'allais quitter ma famille, puisqu'il fallait faire des études. J'allais quitter tous les amis avec lesquels j'avais grandi ces dernières années. Et j'allais me retrouver dans le grand monde froid avec mon petit accent du Nord. Et voilà.
Quitter son milieu. C'est aussi ce qui se passe pour l'héroïne de votre dernier livre. Nous sommes en 1885, dans La Capucine, c'est le titre de ce livre. L'héroïne s'appelle Louise, une gamine de 13 ans. Elle s'enfuit parce que son patron ne cesse de la maltraiter.
Il la bat.
Une fuite donc qui va lui permettre de rencontrer différentes couches sociales de l'époque. C'est quoi le brassage social qu'elle va croiser en 1885.
C'est-à-dire qu'elle grandit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue de Paris, à Bobigny, dans un milieu de maraîchers.
Oui, parce qu'il y avait des petits maraîchers.
C'était des terres maraîchères.
Ah, c'était les meilleurs maraîchers du monde. C'est pour ça que le livre existe aussi. C'est le jour où j'ai appris ça, j'étais vraiment fascinée. Aujourd'hui, il y a que de la ville.
Ils exportaient dans le monde entier.
Ah, mais ils exportaient jusqu'à Moscou. Sans compter que, bien sûr, le fait de nourrir Paris. La région d'Île-de-France est une région tellement généreuse. Une terre magnifique, bon, on n'en sait plus grand-chose. Et donc, elle connaît ce milieu-là. Sa mère vient de la province, elle a dû partir, puisqu'à l'époque, l'immigration, elle, est essentiellement française vers les grandes villes.
Sa mère est à Paris.
Sa mère est à Paris, elle travaille comme domestique. Et elle va, elle va rencontrer ces familles très bourgeoises de Paris que j'ai réinventées d'une manière, je pense que c'est peut-être un peu anachronique, mais enfin avec beaucoup de plaisir. Enfin, je me suis documentée, hein, j'ai lu beaucoup de choses. Rien n'est complètement faux.
C'est un livre historique aussi.
Oui, après je me dis, c'est plongé peut-être
dans l'histoire,
une fantaisie historique.
Mmh. Ouais. Mais est-ce que par exemple, quelqu'un comme Michel Perrault l'a lu? Est-ce que vous le savez?
Non. Parce que moi, je voudrais pas demander, en fait.
C'est le genre de bouquin qui doit lui plaire.
Ah, mais elle va avoir un regard de scientifique, forcément. Elle va dire,
Elle va dire, c'est très bien. Ça, je vous promets. En plus, c'est une série. Non, c'est vrai. En plus, vous aimez bien, et c'est ça qui est très chouette aussi, c'est que c'est souvent des trilogies.
Comme ça, j'ai l'impression d'avoir écrit un gros livre. Je me sens super fière. Sinon, j'ai un peu le souffle court, je
trouve. Ah bon?
Louise, votre héroïne, elle a des ancêtres esclaves?
Sans doute esclaves, oui, parce que elle a les cheveux crépus, elle a le teint abricot, et j'ai pensé à elle, j'ai pensé comme Alexandre Dumas fils, parce qu'on sait assez peu de choses sur la vie des Noirs sur le territoire de l'Hexagone à ce moment-là. Et pourtant, même si les personnes ne sont pas nombreuses, elles sont là et depuis extrêmement longtemps. Et je trouvais ça fascinant que c'est une chose qu'on ne dit pas, que dans les plus grands écrivains les plus populaires du 19e siècle, eh ben, ils étaient noirs. Donc je voulais trouver une place pour ça. Après, il y a assez peu de choses qui ont été écrites. J'ai lu la condition noire des Noirs en France de Papendiaï, par exemple. On n'a pas tellement de témoignages
du quotidien
Des Noirs qui ne devaient pas être très nombreux en France, mais il est extrêmement probable. Louise est extrêmement probable.
Et aujourd'hui, Sylvie Vassallo, est-ce que l'on trouve facilement une littérature jeunesse qui évoque l'histoire des Noirs dans leur quotidien, adressée aux plus jeunes?
On commence à en trouver, effectivement. Il y a pas mal de livres, notamment dans notre sélection Pépites cette année. Il y en avait deux qui parlaient de la question de l'esclavage. Et je pense que, dans ce que Marie Desplechin vient de dire, on voit à quel point ce salon est important et la rencontre avec les auteurs, littérature de jeunesse est important parce que ces livres-là, ils sont adressés à des enfants. Moi, j'ai assisté à une rencontre en classe avec Marie.
Oui, parce que Marie, c'est une femme de terrain. Hein.
Oui.
Elle va, par exemple, Bobigny, elle connaît bien, la Seine-Saint-Denis, elle connaît bien.
Oui,
par cœur.
Et on était à Bobigny pour lancer le salon ensemble avec le président du département, parce que Marie est notre grande ours, c'est notre grand prix 2020. Et on voit très bien que c'est autour de la littérature de jeunesse, c'est un dialogue qui se crée avec les enfants, qui est un dialogue qui leur apprend l'histoire, leur histoire, qui les inclut aussi dans cette histoire et qui les inclut aussi dans une possibilité d'imaginer autre chose. Et on voit tout ça se faire sous nos yeux.
Et ils lui posent des questions ?
Ah oui, ils ont posé beaucoup de questions, y compris des questions assez littéraires, finalement, sur la manière dont elle a choisi ses personnages, sur la manière dont elle les fait évoluer. Moi, j'aime beaucoup quand Marie dit, par exemple, oui, sans doute, elle est issue d'esclaves. C'est elle qui écrit le personnage et elle dit sans doute. Je trouve ça extraordinaire dans le rapport à l'imaginaire et dans l'autorisation que ça crée aussi pour les enfants d'être dans ce contact direct avec ce qu'est l'écriture. Donc elle a vraiment parlé de son processus créatif et je pense que ça donne aux enfants beaucoup de possibles.
Allez-y. Je vous en prie, camarade.
Marie Desplechin, ce prix, parce qu'on en parlait un instant, ce prix de la Grande Ourse que vous allez recevoir physiquement, je crois, aujourd'hui.
Donc j'ai reçu.
Vous avez reçu
physiquement vendredi.
Bon, vendredi, comment vous avez accueilli ce prix?
Ça change une femme. Hein.
Ce prix littérature jeunesse. D'ailleurs, il y a un deuxième prix qui va arriver, peut-être. C'est compatible de recevoir deux prix?
Elle est couverte de prix.
Non, c'est pas vrai. Je suis d'autant plus sensible à cette grande ours que je ne suis pas couverte de prix. Et mais en même temps, je suis pas le genre de gens à dire je veux un prix, c'est pas mon naturel. Donc j'ai reçu
cette
distinction.
C'est pour l'ensemble de votre œuvre.
Hein. Bah voilà, c'est ça. Donc ça les vaut tous. Donc cette question est réglée définitivement. Donc je vous remercie pour ça.
Mais de 7 à 77 ans, de toute façon, un livre, là je vous pose la question à toutes les deux, un livre, ça peut, comme une rencontre, ça peut changer une vie.
Mais ça change la vie en permanence. Quand vous êtes un lecteur, une lectrice, vous savez que ça modèle votre vie, que ça, c'est un tel facteur de bonheur, de réparation, de possible, d'ouverture. C'est pour ça qu'on voudrait partager, Sylvie. Nous, on a l'impression qu'on essaie
de faire passer. Ouais. Ouais. Mais tous les enfants n'ont pas forcément accès de la même manière à la lecture, Sylvie Vassolo. Là, on a l'impression, à vous entendre, que c'est vraiment le gai savoir. C'est génial parce que on apprend effectivement le monde, on apprend l'autre, on le palpe à travers les livres. Mais tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir accès.
Ce qu'on a en commun, justement, c'est que quand on a ressenti ça une seule fois dans sa vie, ce que ça peut changer pour nous, comment ça nous tient? On a envie de transmettre ça. Et alors Marie Desplechin le fait en écrivant des livres, en allant dans les classes. Nous, on le fait, notre équipe, on le fait parce qu'on organise cet événement et aussi plein d'autres choses. Par exemple, on donne des formations aux parents qui sont pas en situation de lire les textes en français à leurs enfants pour qu'ils puissent partager de la littérature à la maison. Donc oui, c'est un engagement autour de la littérature qui est des deux côtés, du côté de l'écriture et du côté de la médiation de notre côté. Et on a besoin d'être ensemble pour aller vers des publics qui sont pas forcément des publics familiers de la relation au livre.
Et puis un mot sur le rôle des libraires dont on a tant parlé ces dernières semaines. Quel est l'apport au Salon de Montreuil? L'apport des libraires?
Alors il y a toujours eu un grand apport des libraires, mais ils sont partenaires. Tiennent les stands des éditeurs. Mais cette année encore plus, puisque nous avons des libraires partenaires sur tout le territoire national qui vont porter nos sélections pépites. La Grande Ourse de Marie Desplechin, on a reçu de belles photos d'ailleurs de mise en place de tables dédiées à Marie Desplechin dans les librairies. Donc sur tout le territoire national,
tout
les libraires
pour avoir
aujourd'hui
la tête,
ont porté cette littérature que nous conseillons.
C'est le prix, c'est le salon de la littérature, mais aussi de la presse jeunesse. Un mot sur cette presse, elle se porte comment d'ailleurs?
Alors la presse jeunesse. La presse jeunesse, c'est quelque chose d'important parce que c'est souvent le premier contact des enfants avec l'écriture, avec la littérature, par le biais des séries qui y sont publiées. Elle se porte plutôt mieux que la presse générale, mais elle a malgré tout besoin, pareil, de pas mal de médiation pour qu'elle existe dans tous les foyers.
La presse, pour vous, Marie Desplechin, c'est aussi un point important, j'imagine. Vous la lisez beaucoup?
C'est pas important, c'est essentiel.
Essentiel. Hein.
C'est essentiel. Et je salue ici Julia Cagé, que j'ai entendu beaucoup sur les ondes de Radio France et qui mène une réflexion à ce sujet qui est super importante. Oui, la presse, c'est paradoxalement, c'est un bien commun. Hein. Enfin, c'est pas paradoxal, mais c'est un bien commun.
Mais ça aussi, vous en parlez, par exemple, dans les classes où
Les enfants peuvent comprendre, suivant leur âge. Donc, par exemple, à quelqu'un de 9 ans, je n'irais pas dire avec ce vocabulaire-là ce que je suis en train de. Mais ça participe à ma manière de penser en général. Et donc, voilà.
Mais par exemple, on est bien placé à France Inter avec avec Interclasse, quoi, puisqu'on va dans les classes, on voit bien le poids terrible des fake news. Et tout ça participe aussi ce que vous faites
sur les journalistes dans des classes aussi.
C'est ça.
Alors ça, c'est les adolescents, ça va pas être les petits, mais les adolescents, à ce moment-là, il faut aller au débat. Ouais. Mais ça devrait être multiplié. Moi, je trouve ça très bien. Faut pas se fâcher, faut parler.
Ouais.
La Capucine, le titre de votre dernier livre, c'est La Capucine de la chanson dans son, non pas la Carmagnole, mais La Capucine, c'est une version, différente.
De la chanson révolutionnaire.
Chanson révolutionnaire.
On aurait dû demander à Ben Mazuet de rester, et il nous l'aurait chanté.
Il nous aurait chanté bien volontiers avec sa guitare. Juste, pour évoquer ça, parce que la morale de la chanson, c'est que s'il n'y a pas de feu chez nous et s'il n'y a pas de pain chez nous, on rigole plus chez nous que chez les voisins qui ont tout.
C'est un principe. Moi, je me souviens, justement, chez moi, quand j'étais petite, dans le Nord, qui était vraiment une région populaire et encore travailleuse, parce qu'il n'y avait pas encore eu la crise à l'époque où je suis née, il y avait toujours cette idée qui courait que chez les patrons, c'était triste, on mangeait mal, mais tandis que dans les milieux pauvres, on partageait, c'était les partageurs. Et il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait faux du partage, en fait, que.
Du plaisir,
quand
t'as peu, du partage.
En fait, tu mets en commun. Ouais. Et que ça crée quelque chose, que dans les quartiers populaires qui s'appelaient les Courets, on partageait. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose, ça repose sur une idée.
Mais il n'y a pas que la nourriture qui se partage, la culture aussi se partage.
Peut-être une banalité de le dire, mais c'est une forme de nourriture en fait. C'est ce qui nous permet de grandir et qui nous tient en vie.
Il y en a qui grandissent sans culture.
Mais ils ont du mal à grandir. Comment se faire un récit qu'on puisse habiter si on ne l'a pas nourri au départ? En fait, on vit comme à côté de soi, on est malheureux. Moi, je crois qu'une grande part du malheur repose. vient de là.
Et pour vous, c'est une grande part de votre bonheur à vous. Et alors, c'est très énervant de voir quelqu'un, une femme qui aime finalement est bien dans son âge et qui est très contente de vieillir. Vous savez que c'est très énervant.
Attention à ce que vous dites, vous n'avez tout de même pas, vous n'avez pas qu'un grand âge.
J'ai passé 60, ce qui est quand même. Oui, je suis très contente, mais c'est une question de génération. Je pense que notre génération nous permet paradoxalement d'être contente de vieillir parce qu'on est contente de nos vies, en fait.
À propos de génération, ce livre qui est inscrit dans le 19e siècle, vous dites que ça vient de votre arrière-grand-mère. Qu'avez-vous gardé de sa vie qui vous inspire aujourd'hui encore, notamment dans vos livres ?
Alors nous, la famille d'où je viens, les gens n'ont pas bougé depuis le 19e siècle. Et c'est mon père, en fait, qui, me lisant ce livre, me dit « Oh, en lisant, j'ai pensé tout le temps à Nana, qui était sa grand-mère, que je n'ai pas connue, qui s'appelait Suzanne. » Tu m'as beaucoup parlé, la mémoire que les familles se transmettent, en fait, ça c'est la culture, en fait, c'est la culture familiale. Et sans que je m'en rende compte, c'est là que je vais chercher la source, sans doute, par attachement à mon père et à cette famille et cette arrière-grand-mère Suzanne, donc dont j'ai vu les photos, dont j'entretiens la mémoire d'une certaine manière. Elle était à Paris à l'époque de la Commune, pendant le siège de Paris en 70 et 71. Et donc l'histoire dit que l'histoire familiale dit que sa mère n'ayant plus de lait parce que elle lui donnait à sucer des ficelles trempées dans la graisse. Et c'est ce genre d'histoire en fait qui vous ça fait partie de tout un récit, une légende et qu'on habite. Et en fait effectivement oui, d'être dépositaire de ces histoires, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient celles d'un groupe ou qu'elles peuvent s'enraciner n'importe où dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai que c'est un énorme facteur de paix et de bonheur.
Est-ce qu'il y a des gens, Sylvie Vassallo, des jeunes qui peuvent repousser les bouquins, c'est-à-dire qui ont une espèce de réflexe un peu vis-à-vis d'un inconnu ?
Oui, il y en a. Il y en a qui le disent avec force. Il y a quand même l'idée.
Genre, allez vous faire voir, quoi.
Il y a l'idée pour certains. Peut-être une peur aussi d'aller vers cet inconnu que peut être le livre, que peut être la littérature. Par contre, ce qu'on voit chaque année à Montreuil, c'est peut-être ça qui manque le plus cette année, c'est que quand on est dans un moment de fête autour de la lecture et de la littérature, dans un moment de fête très simple, où tous les adultes sont là pour les enfants, pour ce contact, il y a des réticences qui tombent.
Et de l'appétit qui vient.
La lecture à voix haute aussi, c'est une façon de donner de l'appétit, c'est-à-dire parfois c'est physiquement difficile d'ouvrir les livres, mais si on entend la langue, si on entend l'histoire, c'est un début pour avancer.
Parlez-en à Daniel Pénac de ça, de la lecture à voix haute, c'est une merveille en fait, il faut la pratiquer.
Il en parle très bien.
Ouais.
Merci bien d'être venu en parler justement sur France Inter ce matin. Merci beaucoup Sylvie Vassallo. Le 36e salon du livre et de la presse jeunesse, c'est jusqu'à demain.
C'est jusqu'à demain, tout à fait.
Jusqu'à demain lundi. Et merci beaucoup Marie Desplechin. Je rappelle donc le titre de votre dernier livre, La Capucine, sur le thème de Dansons la Capucine, paru aux éditions L'École des Loisirs. Il faut citer aussi les maisons d'édition. Merci et bonne journée à toutes les deux.